d'Israël sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30, venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
À Douala, madame, monsieur, bonsoir. Vous faites bien d'être sur la fréquence de vie. À l'instant, vous prenez votre programme au rythme de Dieu. Au rythme de Dieu, un programme de la Cameroun Baptist Convention conduite par l'église Israël Makepe. Nous rappelons l'église Israël Makepe est située à Makepe, derrière le conteneur rouge. Et vous pouvez nous y joindre tous les vendredis, notamment pour pouvoir participer aux rencontres d'études bibliques, le vendredi à partir de 18h30. Ce soir encore, nous sommes là pour vous accompagner dans votre marche, vous accompagner dans ce pèlerinage dans lequel le Seigneur nous appelle à marcher. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre, nous dit la parole de Dieu. Et dans le cadre de cette émission, nous vous encourageons à pouvoir faire ce voyage de la belle des manières avec le Seigneur, avec notre Dieu, le seul qui règne au-dessus de toutes choses. Donc en prenant cette aventure qui est la plus belle des aventures, suivre Jésus-Christ, vous aurez l'occasion de découvrir le don merveilleux de Dieu. Nous sommes donc ce soir le pasteur Emmanuel Koum qui est de l'autre côté. Bonsoir pasteur Koum.
Bonsoir. Pasteur Noé, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent une fois encore ce soir et qui sont au rendez-vous de l'émission Rythme de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne.
Voilà donc, tous les mardis entre 20h30 et 21h30, vous avez droit à ce rendez-vous. Et ce soir, nous sommes encore là et nous aurons l'occasion de nous poser la question pourquoi est-il si difficile de mettre en pratique ce que nous connaissons de Dieu. Pourquoi connaissons-nous assez et pourquoi y a-t-il un si grand écart entre ce que nous connaissons et ce que nous mettons en pratique? Pourquoi y a-t-il un si grand écart entre ce que nous connaissons de Dieu et ce que nous mettons en pratique? Voilà le thème du message de ce soir. Nous espérons que vous serez nombreux également à poser des questions si vous le souhaitez au 79 40 42 42, au 93 47 31 32 si vous le souhaitez. Nous aurons l'occasion de le faire. Pour l'instant, prenons ce temps d'adoration dans la présence de notre Seigneur. Instant d'amour.
Nous lui rendons grâce au Seigneur qui nous a encore une fois amenés dans son amour pour pouvoir célébrer son nom, pour connaître sa grandeur. Il est notre Dieu, celui à qui nous avons posé.
Mais je te défie.
Il est celui
au plus
qui nous a rachetés par son sang précieux.
De moi, je sois de ta présence.
Nous voulons lui rendre grâce.
Comble-moi de toi, mon âme te réclame. Viens Jésus,
en
moi, partageons, Seigneur,
les
instants les plus forts
et nous célébrons,
d'amour.
Nous proclamons que tu es. Il n'y a point de temps d'avatoire.
Je veux passer toutes mes nuits.
Mais quand nous pensons au temps passé, nous avons livré nos membres dans le péché. Nous n'avons reconnu que peine et douleur. Aujourd'hui, tu nous as donné la paix et la sécurité.
Mon cœur,
parce que nous sommes
confiants en toi.
Il a dit à celui qui confie en l'Éternel, tu as sur la paix parce que tu es confiant en toi.
Seigneur,
pour moi, Seigneur. Pour chaque auditeur ce soir, Seigneur, selon ce que tu veux. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes ta parole pour nous permettre de vivre dans une communion parfaite avec toi.
Conduis-moi près de toi.
Merci pour ce que tu
es. Partageons ta vie.
On remercie Jésus parce que tu nous remplis de toi. Merci parce que tu nous donnes de partager ta vie. Ô Seigneur, nous pouvons goûter au torrent de tes délices. Nous pouvons goûter à ta sainte présence. Et le roi David pouvait encore dire qu'un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, nous nous sommes approchés de toi et nous avons senti que nous sommes dans le vrai, que nous sommes dans le meilleur. Seigneur, nous avons expérimenté ton pardon. Nous avons expérimenté la réconciliation avec toi. Nous avons expérimenté ta main puissante, ta main secourable au-dessus de nos vies. Nous avons expérimenté la puissance de ton nom dans les situations difficiles. Nous avons expérimenté la puissance dans ton nom dans les situations, Seigneur, compliquées. Nous avons vu, Seigneur notre Dieu, comment tu as agi dans nos vies, dans nos familles. Nous avons vu, Seigneur notre Dieu, comment tu as tendu la main pour nous tirer des situations, Seigneur notre Dieu, dont nous n'avions plus d'espoir. Seigneur, en tout cela, nous reconnaissons que tu es plein d'amour pour nous. Nous reconnaissons, notre Dieu, que tu es si immense, si grand, Seigneur. Oui, la plus grande preuve que tu as accomplie, c'est que tu as donné ton propre Fils pour nous accorder la vie éternelle. Ce soir, nous voulons encore ressentir ton amour, Seigneur, notre Dieu, parce que être dans ta présence, c'est la meilleure chose qu'on puisse désirer. Marcher avec toi, Seigneur notre Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on puisse souhaiter. Parce que toi, Seigneur notre Dieu, tu es un abri sûr. Tu es une sûre forteresse, Seigneur notre Dieu.
Amen.
Ceux qui se confient en toi, ô notre Dieu, sont dans la paix et dans l'allégresse.
Amen.
C'est pourquoi, notre Dieu, nous te confessons encore ce soir que nous sommes satisfaits. Nous sommes fiers d'être avec toi, de
Amen.
T'avoir comme Dieu, de t'avoir comme Seigneur, de t'avoir comme Sauveur au-dessus de notre vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Pierre pouvait encore le dire, tu as les paroles de la vie. Si nous avons essayé de boire aux sources de cette terre, nous avons recherché dans le sexe, nous avons recherché dans l'argent, nous avons recherché dans le travail, mais aucune de ces choses n'a su satisfaire notre cœur. Mais quand nous t'avons expérimenté, notre Dieu, nous avons découvert que tu es le Dieu vivant. Nous avons découvert que tu es le Dieu vrai. Nous avons découvert que c'est notre Dieu, que tu es la chose, que tu es, c'est notre Dieu, l'être que notre cœur recherchait depuis toujours. C'est pourquoi ce soir encore, notre Dieu, nous te disons notre joie de t'appartenir. Gloire à toi, Seigneur éternel. Gloire à toi, éternel des armées. Oh, gloire à toi,
Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Pour ta grâce, pour ta bonté. Merci, Seigneur. Amen. Mes instants les plus précieux sont ceux que je passe avec toi. Les moments les plus inoubliables, c'est lorsque je me réjouis en toi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Jésus. T'aime, Jésus, tout mon regard. T'aime, Jésus, tout mon bras. Prends le contrôle de cette émission ce soir et conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. L'Éternel vient et prend le contrôle et parle dans le cœur de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Instruis-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher selon tes voies, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. La gloire qui couronne nos parcours, le soleil qui éclaire nos proches.
Si vous nous prenez à l'instant, madame, monsieur, sachez que vous êtes sur Radio Vie Nouvelle, la fréquence de vie, et comme tous les mardis entre 20h30 et 21h30, vous êtes à ce rendez-vous au rythme de Dieu sur la 107.8 FM. Nous allons donc pouvoir aborder le thème de ce soir. Pourquoi y a-t-il un si grand écart entre ce que nous connaissons de Dieu et ce que nous vivons, ce que nous mettons en pratique? Pourquoi y a-t-il un écart entre ce que nous connaissons et l'obéissance que nous avons de la parole de Dieu? Et nous allons une fois de plus être entretenus par le pasteur Emmanuel Koum. Une fois encore, bonsoir pasteur Koum.
Oui, bonsoir pasteur Noé, nous bénissons le Seigneur. Parce que c'est la question que nous devons nous poser depuis le commencement des temps, depuis Adam et Ève, ce qu'Adam connaissait de Dieu et ce que Adam a fait de sa connaissance jusqu'au temps des apôtres, des prophètes, des rois, même jusqu'à Jésus-Christ, je veux dire jusqu'aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il un si grand écart entre ce que nous savons de Dieu et les actes que nous posons? Nous allons faire une étude avec le roi Salomon pour pouvoir voir pourquoi il y a ce grand écart. Nous allons lire dans le livre de 1er roi au chapitre 6, versets 11 et 12. Un roi chapitre 6, versets 11 et 12.
Un roi chapitre 6, versets 11 à 12. Le Seigneur adressa la parole à Salomon. Tu es en train de construire ce temple pour moi. Eh bien, si tu te conduis conformément à mes lois, si tu agis selon les règles que je t'ai données, si tu t'appliques à obéir à tous mes commandements, alors je réaliserai la promesse que j'ai faite à ton sujet lorsque j'ai parlé à ton père David.
La Bible nous montre que quand David mourait, bien aimé, il donna des directives précises à Salomon. Il lui parla de la part de l'Éternel. Dans 1 Roi chapitre 2 verset 3, la Bible nous dit que Salomon parla à son fils, oui.
1 Roi chapitre 2 verset 3, il est écrit: sois fidèle au Seigneur ton Dieu, fais toujours ce qu'il veut et obéis à ses lois, à ses commandements, à ses ordres et à ses enseignements, à tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras.
Nous voyons David qui donne des enseignements à son fils, des instructions pour pouvoir lui permettre de pouvoir avancer avec le Seigneur et d'avoir du succès dans tout ce qu'il va faire. Salomon était un homme très sage. Il avait vu, il avait été admiré des hommes, mais Salomon était l'homme qui n'a pas eu de succès avec l'Éternel. Il avait dit qu'il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Nous allons voir que cet homme n'a pas eu de succès et pourtant il était très riche, le plus riche de tous les rois qui existent en Israël. Il était l'homme le plus sage, mais pourquoi y avait-il un écart entre ce que Salomon sait et ce qu'il a fait de ce qu'il sait? La Bible nous enseigne ici que son père lui donne des... Il dit, marche selon les lois, les ordonnances, les commandements, tout ce que l'Éternel va te dire. Et David donnait ses ordres à Salomon, ses enseignements à Salomon, pour lui permettre de pouvoir marcher selon la loi de l'Éternel. Nous allons voir que quelques instants après, pendant que Salomon veut commencer sa royauté, la première chose qu'il va faire, c'est de désobéir aux ordonnances de l'Éternel. La toute première chose qu'il va faire, alors que son père lui avait parlé. Quand nous allons lire dans le livre de 1 Roi chapitre 3 verset 14, nous pouvons déjà lire le verset 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharaon, il l'amena dans la ville de David. Vous voyez, Salomon connaissait la loi de l'Éternel, il connaissait les ordonnances de l'Éternel. Mais tout simplement parce qu'il ne veut pas faire la guerre avec le roi d'Égypte, parce qu'il veut la protection du roi d'Égypte. Donc pour un problème politique, Salomon a préféré faire ce qui n'est pas dans la volonté de l'Éternel. Or, c'est cet Éternel qui a permis à son père de pouvoir gagner toutes les guerres qu'il a gagnées jusque-là. Et Salomon savait, parce que son père lui a parlé. Et peut-être c'est fort de ce que Dieu connaissait le cœur de Salomon, qui va donc lui apparaître quelques temps après dans un songe. Quand nous allons lire donc maintenant dans les versets 14 de 1 Roi chapitre 3.
1 Roi chapitre 3 verset 14. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements comme ton père David, alors je prolongerai ta vie.
Et la loi de l'Éternel, c'était qu'il ne faudra pas prendre une femme étrangère pour un seul but, pour une seule raison, elle tournerait vos pensées. Il ne faut pas, il n'y a pas de lien, comme dira le Nouveau Testament, entre les ténèbres et la lumière. Et voilà donc Salomon qui s'allie à la fille du roi d'Égypte, alors qu'il savait pertinemment qu'il ne fallait pas le faire. Son père lui a parlé, Dieu lui a apparu. Et Dieu va encore apparaître à Salomon pour la deuxième fois, à lui parler à Salomon pour la deuxième fois, pendant qu'il était en train de faire la dédicace du temps dans 1 Roi chapitre 8, verset 25.
1 Roi chapitre 8, verset 25. Eh bien maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, accomplis également ce que tu as promis à ton serviteur David, mon père, lorsque tu lui as dit, si tes descendants se conduisent loyalement à mon égard, comme tu l'as fait toi-même, je t'assure qu'il y aura toujours devant moi l'un d'entre eux qui régnera après toi sur le peuple d'Israël.
Donc là, nous venons plutôt de lire le verset qui montre que Salomon était conscient de ce que Dieu lui avait dit. Il connaissait la parole. Dieu lui a reparlé dans 1 Roi, chapitre 6, verset 11 et 12, le verset que nous avons lu. Donc Dieu lui a parlé deux fois. Son père a enseigné. Et lui-même était conscient, il connaissait cette parole, puisqu'il vient de la répéter dans 1 Roi chapitre 8, verset 25. Mais cela n'a pas empêché Salomon de prendre des multitudes de femmes, des Ammonites, des Amoréens et des femmes de tout, enfin, des pays que l'Éternel avait refusé que les enfants d'Israël s'allient par le mariage. Peut-être comme Salomon était un homme très sage, chaque fois qu'une femme venait lui rendre visite, quand elle avait écouté Salomon, elle, comme on dit dans le langage mondain, elle tombait tout simplement. Et quand Salomon la relevait, c'était pour qu'elle puisse devenir sa femme. Elle en a donc fait une multitude. Mais pourquoi y a-t-il un si grand écart entre ce que Salomon savait? Salomon a appris de son père, comme on peut dire que nous sommes enseignés des hommes de Dieu, des pasteurs. Nous sommes enseignés par la lecture de la parole de Dieu. Salomon a écouté Dieu lui parler deux fois. Nous sommes enseignés par la parole de Dieu. Et nous avons la connaissance de ces mots, de ces paroles. Parce que qui ne sait pas qu'il ne faut pas tricher? Qui ne sait pas qu'il ne faut pas mentir? Quel enfant de Dieu ne sait pas qu'il ne faut pas vivre dans le péché du sexe? Quel enfant de Dieu ne sait pas qu'il ne faut pas vivre dans la cupidité, dans la haine, dans la méchanceté? Si nous donnions une prédication dans tous ces thèmes à n'importe quel enfant de Dieu, il va sortir une prédication qui plairait à tout le monde. Comme Salomon l'a dit à Dieu lui-même le jour de... pendant qu'il était en train de dédicacer le temple, il a dit « comme tu as dit à mon père ». Donc Salomon savait ses paroles, il était conscient de ses paroles, des paroles que le Seigneur lui-même lui a dites. Mais le pire, c'est que, ce qui est amusant, je veux dire, c'est que pendant qu'il récitait ses paroles, il y avait déjà une Égyptienne dans sa maison. Je ne peux pas dire s'il n'y avait pas déjà d'autres personnes dans sa maison, mais nous sommes déjà sûrs qu'il y avait une Égyptienne dans sa maison. Il y avait déjà une femme qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, pourquoi y a-t-il un écart entre ce que Salomon sait, cet homme sage, cet homme qui connaissait Dieu, cet homme qui a, quand on lit le livre des Proverbes, quand on lit même Ecclésiaste, nous pouvons imaginer combien cet homme était proche de Dieu dans la connaissance. Mais la connaissance, c'est la tête, et la vie, c'est le cœur. Tant qu'il y a une distance entre ce que nous connaissons dans notre tête et ce qui produit la vie de ce que nous connaissons, c'est-à-dire notre cœur, comme la Bible le dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que vient la vie. Et Jésus lui dit de l'autre côté que c'est de ce même cœur que vient la mort. Donc en fait, le cœur va produire la vie en Dieu ou la vie dans le mal. Mais pourquoi y a-t-il un écart entre ce que nous connaissons, c'est-à-dire une distance entre notre tête et notre cœur, alors que la Bible nous dit que Dieu a voulu ramener cette chose en une seule? Bien-aimé, qu'est-ce que tu ne connais pas de Dieu? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu de Dieu? Qui va donc nous dire que c'est dans la multitude des enseignements qu'il y a la mise en pratique de la parole? Non, bien-aimé, c'est dans l'obéissance. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14 à 15 va nous le dire.
Aujourd'hui, nous entendons les gens courir dans tel enseignement. Il y a encore tel enseignement ici, il y a encore tel autre enseignement là-bas. Il y a encore tel autre enseignement là-bas. On va d'enseignement en enseignement. Et quand on est enfant, on dit, le Seigneur m'a encore parlé aujourd'hui. J'ai été instruit du Seigneur. Mais après, qu'est-ce que je fais de ce que je sais, de ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que le livre d'Ecclésiaste nous dit?
Ecclésiaste chapitre 12, verset 14 à 15. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
Et voilà donc celui qui a pris plus de 1000 femmes, qui est en train de faire une telle conclusion. Dieu demandera compte. Et il le savait. Mais entre-temps, il est en train de prendre des Égyptiens, des Moabites, des Amoriens, et toutes les femmes qui sont tout autour de lui, les femmes pour lesquelles Dieu a dit, vous n'irez pas vers elles. Mais il le savait. Il dit, la conclusion de tout, c'est, mets en pratique la parole de Dieu. Seulement vient de nous dire que ce n'est pas dans la multitude des enseignements ou en courant derrière les prédications qui a la mise en pratique de la parole. On peut recevoir une parole une seule fois et y obéir, comme on peut l'écouter 100 fois sans obéir, parce que c'est un problème de choix. Salomon savait toutes ces choses. Nous venons de lire ce qu'il a dit dans le livre d'Ecclésiaste. Donc il savait toutes ces choses. Salomon l'a écouté de son père, je veux dire donc d'un prédicateur. Salomon l'a écouté directement de Dieu, ça veut dire d'une méditation dans la parole de Dieu, ou bien d'une révélation directe de Dieu. Salomon l'a répété lui-même et il vient de le conclure encore dans l'île d'Ecclésiaste. Mais, pourquoi y a-t-il un écart entre ce que Salomon sait, ce que Salomon a appris, ce que Dieu lui a dit, et ce qu'il a réellement fait? Parce que nous voulons nous rappeler que c'est Salomon qui a introduit le péché en Israël. Parce qu'après Saül, David a détruit toute la puissance du mal qui agissait en Israël. Et c'est Salomon qui a réintroduit le culte de Baal, le culte de hauts lieux en Israël. Bien-aimé, l'Éternel Dieu rappelle à tout moment ses lois et ses ordonnances à Salomon parce qu'il connaissait déjà le cœur de Salomon. Il avait vu ses actes dès le premier jour. Il a pris la fille de Pharaon. Dieu connaissait donc que celui-là n'irait pas loin avec lui. Et c'est pour cela qu'en chemin, il faisait tout pour pouvoir lui rappeler la parole, pour pouvoir le remettre en ordre. Il lui a même donné de la connaissance, de l'intelligence pour pouvoir prêcher cette parole, comme un homme de Dieu qui prêche et qui vit le contraire de tout ce qu'il prêche. Son cœur n'était pas totalement tourné à l'Éternel, et son cœur n'était pas disposé à pouvoir mettre en pratique ce qu'il a entendu, ce qu'il sait et ce qu'il a écouté de Dieu. Le problème donc ici est un problème de choix, de ce que nous faisons avec ce que nous savons de Dieu. Tu ne vas pas me dire que, je me rappelle un jour une sœur qui était en train de vivre, qui vit même une relation qui n'est pas bonne avec un monsieur. Et puis, elle vient me voir parce que elle savait que je vais la reprendre. Elle a donc fait le premier pas et elle vient me voir et me dit, bon voilà, j'ai eu des enfants avec ce monsieur et je ne peux pas rompre. Enfin, je dis même sœur. Et si Dieu veut que cette relation puisse être rompue, qu'il le fasse lui-même. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à ta place. Si tu ne veux pas, tu vas couper là. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui viendra t'empêcher de prendre de l'argent. Il ne va pas venir couper ta main. Non, tu ne vas pas lui dire que si tu veux sortir de la cupidité, qui te tire, toi, si tu veux, il va te tuer, tout simplement. Mais Dieu ne peut pas le faire. Voilà donc comment elle savait elle-même que ce qu'elle vivait n'était pas bien, mais elle trouvait des excuses pour pouvoir avancer. Comme beaucoup de personnes savent que mentir n'est pas bien, haïr n'est pas bien, tromper n'est pas bien, la jalousie n'est pas bien. Tout ça, on a entendu, on a lu dans la Bible, on l'a enseigné même nous-mêmes, mais pourquoi est-ce qu'on est dans la haine? Pourquoi est-ce qu'on est dans la jalousie? Pourquoi est-ce qu'on est dans le commérage? Pourquoi on est dans le mépris des autres? C'est parce qu'on a choisi de le faire. Puisque le Dieu lui-même a dit qu'il nous donne le vouloir et le faire. C'est-à-dire qui te donne le vouloir de mettre en pratique ta parole et la capacité de pouvoir mettre en pratique cette parole. Parce que notre capacité nous vient de Dieu. Et il dira lui-même que cette parole n'est pas au ciel pour dire qui ira me la chercher, ni dans la mer. Elle est dans ton cœur. La parole de Dieu dans le cœur d'un homme doit produire la vie. Mais on se rend tout simplement compte que l'écart, il y a un grand écart entre la tête, c'est-à-dire la connaissance de cette parole, et le cœur, c'est-à-dire ce qui produit la vie. Et la parole est donc restée dans la tête, une simple connaissance, mais n'a jamais produit la vie dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous voyons tout ce qu'il y a comme scandale, tout ce qu'il y a. Nous n'avons pas dit que quelqu'un ne peut pas, comme on dit souvent, tomber entre guillemets. Quelqu'un ne peut pas. Mais la capacité d'un homme comme David, qui prouve qu'il aime Dieu, c'est que quand tu fais un faux pas, tu te relèves immédiatement et tu continues avec le Seigneur. C'est ça qui prouve en réalité que il n'y a pas de distance entre ta tête et ton cœur. Parce que le Seigneur sait que nous sommes faits de chair et que nous pouvons avancer avec lui. Mais pourquoi y a-t-il un si grand écart? Parce que nous choisissons volontairement de pouvoir vivre selon la pensée qui n'est pas celle du Seigneur. Et quand l'Éternel va donc rappeler à tout moment à Salomon que si tu marches selon les voies de ton père, si tu mets mes lois en pratique, il ne manquera pas de successeur dans ton royaume, c'est parce que Dieu savait déjà que la disposition du cœur de Salomon n'était pas bonne. Dès le premier jour de sa royauté, il a fait alliance politique en prenant la femme étrangère, ce que Dieu n'aime pas. Mais vous allez voir par contre, l'Éternel n'avait pas engagé sa relation avec David par des ordonnances. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de venir à lui pour lui parler. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de se révéler à lui, ni d'envoyer même des prophètes. Mais il avait fait une relation avec David par le témoignage du cœur de David. Quand on va lire dans 1 Samuel chapitre 16, versets 7 et 12.
1 Samuel chapitre 16, versets 7 et 12. Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Et verset 12.
Verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec de beaux cheveux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui.
Car c'est lui parce que Dieu a vu son cœur. Dieu connaissait le cœur de David. C'était un cœur qui était prêt à l'obéissance. C'était un cœur qui était prêt à marcher selon les ordonnances de l'Éternel. Et nous l'avons vu, quand David voulait faire quelque chose, quel que soit ce qu'il voulait faire, il demandait d'abord à l'Éternel. Et cela l'a tellement aidé dans sa marche et dans sa fuite devant Saül. Nous nous rappelons une fois, il est allé dans une ville appelée Keïla, et il venait d'aider cette ville en ramenant les femmes et les biens de ce roi qui ont été enlevés par une guerre. Et il se disait normalement que là, on allait le protéger, on allait le garder. Et quand il a entendu que Saül était en train d'arriver, la Bible dit qu'il est allé consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit qu'on va te livrer. Vous savez, très souvent nous faisons confiance aux gens qui sont autour de nous en nous disant, nous leur avons fait du bien. En nous disant, nous les avons aidés quand ils étaient dans les difficultés. Et on leur donne une confiance tellement grande que quand nous sommes dans un programme avec eux ou que nous voulons marcher avec eux, nous oublions même de demander à l'Éternel si cette personne sera fidèle et marchera toujours avec nous dans la fidélité. Nous comptons sur des choses que nous leur avons faites. Et c'est à partir de là, donc très souvent, que nous recevons toute forme de blessure, de douleur, parce que nous comptons sur les hommes, mais pas sur Dieu. Nous comptons sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos maris, tout simplement parce que nous nous disons que nous avons un impact matériel, un impact spirituel, ou quelque impact que ce soit, et que nous leur avons fait du bien, nécessairement nous rendrons du bien. Non, David n'avait pas ça. Devant chaque situation, il consultait l'Éternel. Vous voyez, David avec l'Éternel avait une relation de droiture de cœur, une relation de justice, une relation telle que Dieu était content de David. Et David avait donc bâti avec Dieu cette relation de droiture et de sainteté. Cette relation était tellement profonde qu'il ne faisait rien, comme nous disions, sans demander à Dieu. Et la loi de Dieu était inscrite dans son cœur. Il le dit lui-même dans le psaume 119, verset 7.
Psaume 119, verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement.
Je garde tes statuts. Donc, David avait gardé vraiment des statuts dans son cœur. Et le verset 9 et le verset 11.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je sers ta parole, verset 11, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Alors la parole de l'Éternel n'était pas dans la tête de David. La parole de l'Éternel n'était pas une simple connaissance chez David. La parole de l'Éternel était serrée dans son cœur. La parole de l'Éternel était profondément dans son cœur. Et cette parole avait donc produit la vie. Et c'est pour ça que Dieu a fini par dire, c'est le serviteur selon le cœur de l'Éternel. Parce qu'en réalité, quand on le voit dans la marche, on se rend compte que David était une personne totalement particulière. Et Dieu n'avait pas besoin de lui rappeler ses commandements. Il n'avait pas besoin de lui rappeler ses lois. Parce qu'il les connaissait, non seulement dans la pensée, mais dans son cœur, tout était inscrit. Et David savait, par exemple, c'est dans le cas de la bagarre avec Goliath, que ne jamais rien faire qui ne glorifie le nom de l'Éternel. Et c'est pour ça que quand il va même batailler avec Goliath, il dit, tu viens avec des javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Vous voyez, chaque fois que tu ne glorifie pas le nom de l'Éternel, la chose qui va suivre, en réalité, c'est le désastre. Sauf si tu reviens à l'Éternel. Et David était un homme tellement juste que, même quand il avait péché, nous voyons encore la justice et l'amour de David par rapport à Dieu. Parce qu'il avait déjà condamné la personne qui avait fait cet acte, et immédiatement, il s'est senti condamné, et il a demandé pardon à la seconde. Ce que Salomon n'a pas fait, hein. Quand Dieu a apparu à Salomon pour lui dire que tu t'es détourné, tu as pris des femmes étrangères et que tu as fait des adorations sur les montagnes, dans les hauts lieux et tout, tu leur as construit des petits temples, si on peut le dire comme ça, Salomon ne s'est pas repenti. Il n'a pas demandé pardon à l'Éternel. Mais alors que Salomon va te prêcher le pardon, quand tu vas entrer dans le livre de Proverbes, tu vas trouver que Salomon a prêché le pardon. Et Dieu lui a parlé du pardon, de demander pardon. Son père lui en a parlé, garder les lois de l'Éternel. Hein? Son père a parlé. Et lui-même, quand il faisait la dédicace du temple, il a dit une chose très importante. Quand ton peuple, dans le lieu où il sera amené, va demander pardon en le regard tourné vers le temple, pardonne. Salomon l'a dit, que si ton peuple demande pardon, le regard tourné vers le temple, pardonne. Mais lui-même, dans une situation comme celle-ci, il ne demande pas pardon à l'Éternel. Pourquoi y a-t-il un écart entre ce que Salomon savait, ce que Salomon a prêché, entre toute la sagesse que cet homme avait, et ce qu'il produisait sur le terrain? Un homme qui ne demande pas pardon, un homme qui prend les femmes étrangères, un homme qui construit les hauts lieux pour l'adoration, et il a laissé le temple que lui-même il a bâti pour commencer pour continuer à aller adorer dans les hauts lieux. Pourquoi y a-t-il une telle différence? Parce que la parole de Dieu n'avait jamais atteint son cœur. Elle était restée dans son intelligence. Et pourquoi David, lui, s'ennuyait pas à marcher d'après les voies de l'Éternel, c'est parce que la parole de Dieu était dans son cœur, selon le psaume 111 que nous avons lu, 119 que nous avons lu, la parole de Dieu était dans son cœur serré, ce n'était pas seulement dans son intelligence. Il a lié donc les deux, alors que Salomon n'a lié pas les deux, connaissance et pureté de cœur. C'est pourquoi Paul peut dire, avec raison, hein, bien-aimé, quand nous allons lire dans 1 Timothée, au chapitre 1, verset 9, Paul peut dire avec raison, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers. Tu ne voleras point n'est pas une loi pour celui qui ne vole pas, ça c'est clair. Tu ne mentiras point n'est pas une loi pour celui qui ne ment pas, c'est clair. Tu ne commettras point d'adultère n'est pas une loi pour celui qui n'en commet pas, ça c'est clair. Enfin, toutes les lois qui ont été faites, c'est pour le méchant, ce n'est pas pour le juste. C'est pour celui qui ne craint pas Dieu, c'est pas pour celui qui craint Dieu. Ça veut donc dire, bien-aimé, que si derrière toi, il y a des lois, si tu vis dans la loi, si tu vis dans la loi de « tu ne tromperas point ton prochain, tu ne feras pas un point de commérage parce que tu en fais », quiconque est dans la loi de « tu ne feras point de commérage », c'est la personne qui est dans une église et qui commère. C'est lui qui est sous la loi, c'est elle qui est sous la loi de « tu ne feras pas de commérage ». C'est le cupide qui est dans l'église, qui prend l'argent de celui-ci, il ne paye pas, il prend l'argent de l'autre, il ne paye pas. Il est endetté, il a trompé tous les frères, c'est pour lui que la loi existe. C'est pour lui que la loi de l'Éternel existe. C'est celui qui passe son temps à convoiter les biens de son frère, la voiture de son frère, et qui est plein de jalousie dans son cœur. C'est pour lui que la loi existe. Il y a donc plein de personnes qui sont dans l'église, mais qui vivent sous la loi du mensonge, sous la loi de l'adultère, sous la loi du vol, sous toute forme de loi, tout simplement parce que la loi est faite pour ces personnes. Je disais dimanche au culte que si tu ne manges pas le macabo et que tu arrives dans une fête et qu'on dise il n'y a que le macabo à la fête, non mais tu vas t'asseoir tranquillement dans ton coin. Si tu n'es pas fumeur, si tu ne fumes pas, la loi tu ne fumeras pas, ne t'intéresse pas parce que tu n'es pas sous cette loi-là. La loi n'est pas pour l'homme juste. La loi est pour les injustes. C'est pour ça que, bien-aimé, si tu marches encore sous la loi, c'est que tu n'as pas encore la parole de Dieu dans ton cœur. Elle est dans ta tête. Tu peux partir dans tous les enseignements possibles. Tu peux recevoir 100 fois le même enseignement sur le pardon. Tu vas dire une seule chose, vraiment une seule chose, l'enseignement était bien. Mais cela ne t'amènera pas à pardonner. Mais si tu n'es pas sous la loi de la haine, si tu n'es pas sous la loi de la colère, il suffit que tu entendes une seule fois que tu devras pardonner ton ennemi, que tu mettras cette parole en pratique. Et c'est ça que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, qu'on n'a même pas besoin des 66 livres de la Bible. Abraham n'en avait pas, Jacob n'en avait pas, Joseph n'en avait pas quand il était chez Potiphar. Il n'y avait pas encore la loi, il n'y avait pas encore les écrits, je pense. Mais la loi était inscrite dans leur cœur, ils marchaient par la foi. Et parce que la loi était inscrite dans leur cœur, ils pouvaient marcher avec Dieu, accomplir la volonté de Dieu, comme Noé. La loi était inscrite dans ton cœur. Quand la loi n'est pas inscrite dans ton cœur, mon frère, tu peux faire tout ce que tu veux, recevoir tous les enseignements que tu veux, être même plus sage que Salomon. Cela ne t'empêchera véritablement pas à pouvoir faire pire que Salomon. Parce que, en dernière analyse, comme il a dit lui-même Salomon, le problème n'est pas ce qu'on a pas. Trop d'études fatiguent le corps. La conclusion, c'est crains l'Éternel et mets en pratique sa parole. Pour pouvoir craindre l'Éternel, il faut faire ce que David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, pas dans ma tête, mais dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est aux injustes qu'il faut rappeler l'amour, c'est aux injustes qu'il faut rappeler le pardon, l'humilité, la soumission. Il faut leur rappeler leur engagement, leur promesse. Quand quelqu'un est injuste, c'est vers lui qu'il faut toujours courir. Je dis souvent, quand je fais mes campagnes d'évangélisation, on me dit, et les gens qui ont cru, il faut faire le suivi. Et je dis toujours, ne fais pas le suivi de quelqu'un qui a cru. Vous faites le suivi des gens qui n'ont pas cru. Et vous voulez les obliger à venir au Seigneur. Vous allez faire un mois, deux mois, trois mois de suivi derrière quelqu'un qui parfois même ne vous reçoit pas, trouve des excuses pour vous dire qu'il n'est pas là. Alors que celui qui a véritablement cru, vous ne faites pas son suivi, c'est lui qui cherche l'église. Et ça, c'est ce que j'ai vu. Chaque fois qu'on a fini une campagne d'évaluation, celui qui a réellement cru vient dimanche au culte. Celui qui a réellement cru vient aux études bibliques la semaine d'après. Mais celui qui n'a pas cru, les gens sont en train de faire le suivi derrière lui. Non, la loi n'est pas encore dans son cœur. La loi est dans sa tête. Aujourd'hui, nous sommes en ballotage. L'église est en ballotage parce qu'on connaît beaucoup de choses, mais on ne vit pas ces choses que nous connaissons. Parce qu'il y a un écart entre notre tête et notre cœur. Il y a un écart entre la tête de beaucoup de chrétiens et leur cœur. C'est pour ça que la vie de Christ
ne transparaît pas dans leur marche. La cause de la faiblesse de Salomon, bien-aimé, venait de deux choses. 1 Roi chapitre 3, versets 1 et 3. La cause venait de deux choses. Il caressait dans sa vie l'amour des femmes étrangères et sa mauvaise habitude d'adorer dans les hauts lieux comme les païens. 1 Corinthiens 3, 1 Roi 3, versets 1 et 3.
1 Roi chapitre 3, versets 1 et 3. Le roi Salomon épousa une fille du Pharaon, roi d'Égypte, et par ce mariage, il s'allia avec Pharaon. Il amena sa femme dans la cité de David à Jérusalem, en attendant d'avoir fini de bâtir son propre palais, ainsi que le temple du Seigneur et les murailles qui l'entourent. Salomon manifesta son amour pour le Seigneur en faisant ce que son père David lui avait ordonné. Pourtant, lui aussi offrait des sacrifices d'animaux et brûlait du parfum dans les lieux sacrés.
Vous voyez, Salomon faisait ce que son père lui avait dit, mais il brûlait quand même dans les hauts lieux. Comme dira ma traduction, il brûlait dans les hauts lieux, comme exactement les païens. Donc Salomon avait l'amour de brûler les choses dans les hauts lieux. Et quand il va donc, même quand il va construire le temple, on va le voir dans le 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 9, même quand il va construire le temple, il va continuer, il va même abandonner le temple pour pouvoir aller brûler dans les hauts lieux. Le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, je ne sais pas si c'est l'amour ou la bêtise. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla vers, après Astarté, vous voyez ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est lui qui a introduit les divinités en Israël. Astarté, divinité des Sidoniens, Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui est apparu deux fois. Bien-aimé, le Seigneur lui a apparu deux fois. Salomon a prêché ces choses dans le livre de Proverbes, dans le livre d'Ecclésiaste. Salomon était un homme sage, mais seulement sa sagesse était dans sa tête, pas dans son cœur. Il y a des enfants de Dieu qui sont pleins de connaissances de l'Éternel, pleins de connaissances de l'amour de l'Éternel, mais cet amour est dans leur tête. Pleins de connaissances de toute la volonté de Dieu, mais cette connaissance est dans leur tête, pas dans leur cœur. Pleins de connaissances de directives de Dieu par rapport à la vie d'un enfant de Dieu, mais cette connaissance est dans leur tête, pas dans leur cœur. Là, nous voyons dans la conjugaison de ces deux choses, l'amour de la femme étrangère, et voilà la conclusion aujourd'hui. Vous voyez, quand la parole de Dieu est dans votre tête, elle va finir par produire, elle ne va rien produire dans votre vie, et vous allez finir par faire des alliances avec le monde. Parce que vous allez commencer à discuter cette parole, ce qui est dans votre cœur, vous la mettez simplement en pratique. Mais si elle est dans votre tête, vous la discuterez en fonction des dieux qui sont devant vous, en fonction du monde tel que le monde se présente devant vous, afin de pouvoir vous détourner de la volonté de notre Dieu. Bien-aimés, nous voulons vous dire qu'il y a un très grand écart entre ce que beaucoup de personnes connaissent de Dieu et ce qu'ils font de ce qu'ils connaissent de Dieu. De tous les rois, David était un repos pour Dieu. Il n'avait pas besoin de descendre. Dieu n'avait pas besoin de descendre pour lui rappeler les lois et les ordonnances. Ou d'apparaître à David ou encore d'envoyer ses prophètes pour adresser à tout moment des jugements et des réprimandes. Comme nous le disions avant, la loi est pour les injustes. Vous voyez, avant que David ne fasse cette erreur, parce que je veux dire que c'était une erreur, cette erreur avec Bathsheba, la loi tu ne commettras point d'adultère n'était pas sa loi. David ne savait même pas ça. Et après qu'il ait commis l'erreur et qu'il ait accepté de passer par les souffrances que le Seigneur avait prévues pour son péché, la loi tu ne commettras point d'adultère n'était pas la loi de David. Donc Dieu n'avait pas besoin de courir toujours après David pour pouvoir le ramener à lui. Parce que Dieu, pour David, Dieu était en repos. Les prophètes étaient dans le repos. Tous ceux qui travaillaient pour l'Éternel dans ce temps étaient dans le repos parce que David n'était pas un problème pour Dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont de véritables problèmes pour des pasteurs. Pour pouvoir les amener à comprendre une vérité de la parole de Dieu, il faut passer du temps à discuter, à se chamailler parce que cette parole n'est pas dans le cœur, elle est dans la tête. Et quand ils reçoivent cette parole, ils le reçoivent dans la réflexion, dans un désir de comprendre des choses que parfois même on n'arrive pas à comprendre, qu'on ne doit même pas comprendre. Jésus a marché sur les eaux, tu vas comprendre ça comment? Tu vas comprendre ça comment? Jésus a multiplié le pain, tu vas comprendre ça comment? Tu crois tout simplement et puis c'est tout. Jésus a ressuscité des morts. Les gens vont te dire que ce n'est pas possible. Tu crois et c'est tout. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la réflexion telle que ils veulent tout comprendre parce que ce n'est pas dans leur cœur, par la foi, mais c'est dans leur tête. Bien-aimés, le Seigneur a beaucoup aimé David. Ce n'est pas comme Saül qui était un véritable problème pour Samuel. Samuel devait toujours revenir vers Saül, jusqu'à passer son temps à pleurer. Et l'Éternel lui a dit, non, tu n'as pas besoin de pleurer. On pleure pour des gens, on leur dit des choses. Ils lisent des choses, ils prêchent même ces mêmes choses. Ils rendent même témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais il y a un très grand écart entre leur tête et leur cœur, entre la connaissance et la vie de Dieu que produit cette connaissance de Dieu. Salomon, Saül et tous les autres rois ont été de véritables problèmes. Dieu devait souffrir avec leur vie. Bien-aimé, le problème que tu as actuellement dans ta marche avec Dieu, le problème qui fait que tu te poses beaucoup de questions dans ta façon de faire, tu as trop d'interrogations, c'est tout simplement parce que la parole est dans ta tête, mais pas dans ton cœur. Si la parole avait produit la vie, Dieu t'a déjà donné toutes les directives et les directions de ton existence par rapport à la vie que ta parole a produite. Et chaque fois que tu pars vers lui comme David pour pouvoir poser une question, Dieu va te donner la réponse exacte afin que tu puisses marcher selon ses voies. Et avant même que tu ne partes vers Dieu, la Bible, les Saintes Écritures te diront tout ce dont tu as besoin. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Tout, ce n'est pas seulement des problèmes matériels. Tout seulement parce qu'aujourd'hui, quand on dit demander tout, on ne voit que l'argent, on ne voit que la voiture, on ne voit que le mariage. Demandez les directives de Dieu par rapport à votre existence. Demandez les directives de Dieu par rapport à votre vie. Toutes ces choses vous seront données. Parce que le Seigneur avait déjà prévu ces choses d'avant. Il vous a créé pour des bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avant, afin que vous puissiez les pratiquer. Donc avant même que tu ne deviennes enfant de Dieu, Dieu t'avait déjà créé pour les bonnes œuvres qui existaient déjà, afin que vous puissiez les pratiquer. Donc l'enfant de Dieu a été créé pour les œuvres qu'il peut mettre en pratique. Mais seulement, c'est dans sa tête, parfois, mais ça n'atteint jamais son cœur. Et c'est pour ça qu'il y a un très grand écart entre ce que nous connaissons de Dieu et ce que nous vivons. Quelqu'un va te dire que pourquoi Dieu ne me guérit pas? C'est parce que la guérison est dans sa tête. La vie dans le cœur peut lui dire que cette maladie est pour la gloire de Dieu et a besoin d'exister telle qu'elle est. Que le Seigneur nous bénisse ce soir et que le Seigneur nous accompagne dans la méditation. Et notre prière pour toi, c'est que que la distance entre ta tête, la connaissance, et ton cœur, la vie de Dieu, puisse se raccourcir pour se confondre en une seule chose. Et c'est dès lors que tu verras que la vie chrétienne, c'est facile. La vie chrétienne est tellement facile, la mise en pratique de la parole de Dieu est tellement facile. Mais seulement pour ceux qui servent la parole dans le cœur et non dans leur tête. Repends-toi bien-aimé. Toutes les questions que tu te poses ne valent pas la peine d'être posées. Parce que si la parole était dans ton cœur, que le Seigneur te bénisse.
Voilà, vous écoutez au rythme de Dieu sur la 107.8 FM. Nous venons de prendre ce message avec le pasteur Koum. Pourquoi y a-t-il un si grand écart entre ce que nous connaissons de Dieu et ce que nous vivons? Peut-être que vous avez quelques questions, peut-être que vous avez une interrogation, peut-être pas obligatoirement par rapport au message de ce soir. Alors le 79 40 42 42 ou le 93 47 31 32 vous sont disponibles ce soir pour poser une question ou pour apporter une contribution si vous le souhaitez. Donc si vous avez une question par rapport au message de ce soir ou encore une autre question qui n'a rien à voir avec le message de ce soir ou une contribution, le standard vous est ouvert, 79 40 42 42, 93 47 31 32. Vous nous joignez par l'un de ces contacts et puis nous vous accueillerons dans ce studio. On peut comprendre ce soir que les gens ont de la peine à vivre la parole de Dieu parce que tout ce qu'ils apprennent de Dieu, ils ne l'emmagasinent pas dans leur cœur mais plutôt dans leur tête. Donc ça reste dans la tête. On étudie beaucoup la parole de Dieu, on l'expérimente beaucoup moins. Donc ça reste beaucoup plus des études juste pour la tête, les rencontres d'études bibliques et tout ce qu'on fait. On s'est rendu compte, on en parlait déjà à l'église, il y a toujours de très bonnes réponses aux études bibliques. On donne toujours les réponses épatantes à l'étude biblique, mais quand il s'agit de la vie pratique, ça devient autre chose. La même personne qui a donné la bonne réponse, si tu apparais dans la rue, quelqu'un te gifle, qu'est-ce que tu fais? On répond très facilement que la Bible dit que si on te frappe sur la joue gauche, présente aussi la joue droite. Ça, c'est très facile. Mais quand tu te retrouves dans la situation où on te gifle vraiment, non, tu dis plutôt que c'est pas parce que je suis enfant de Dieu.
Voilà, que je vais me laisser,
traîner
dans la boue. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cris et de douleurs parmi les enfants de Dieu. C'est ce que j'ai remarqué de la construction du temple d'Israël, c'est que les pierres étaient toutes taillées dehors et on venait les agencer dans le temple, comme dit la Bible. C'est-à-dire que il a été précisé que dans le temple, on n'entendait ni bruit de hache, ni bruit de pierre, ni bruit de marteau. Donc c'était des pierres totalement taillées qui venaient s'agencer. Mais aujourd'hui, donc,
c'est l'image un peu de l'église de Christ.
Ce sont des pierres vivantes.
L'église, c'est des pierres vivantes qui sont totalement taillées par la nouvelle naissance et par la vie de la croix.
Mmh.
Et quand on entre à l'église, on ne doit pas entendre le bruit de marteau, c'est-à-dire de disputes, le bruit de pierres, c'est-à-dire de querelles, de jalousie et tout. C'est-à-dire que l'église est un endroit où on ne vit que la paix, la sérénité, la tranquillité. C'est un endroit de repos en réalité.
Mmh.
Hein? C'est un endroit de repos, en fait, c'est l'image avec la construction du temple de... Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce n'est pas un endroit de repos? C'est effectivement parce que les pierres ne sont pas taillées.
Ouais, ouais.
Les cœurs ne sont pas taillés. Mmh. Et on vient donc à l'église, juste parce qu'on nous donne de l'argent ou je sais pas quoi. On a déjà un titre. On est donc venu avec tout son bagage, des gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Parce que la plupart des temps, même dehors, on dit aux gens, viens à l'église.
Mmh.
On ne prêche pas d'abord l'évangile à quelqu'un. On l'invite tout simplement dans l'église. Et le gars, à force d'être là, est devenu un frère.
Mmh.
Alors que sa vie n'a jamais changé. Hein? Et voilà donc quand il va commencer à créer des scandales, parce que ce n'est pas une pierre taillée. Donc là, mais quand il va te prêcher lui-même d'après l'évangile, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui connaît Dieu à un niveau très élevé.
On comprend pourquoi les gens raisonnent beaucoup au sujet de la parole de Dieu, puisque la chair fait apparaître des choses qui ne sont pas conformes à l'esprit. C'est quand quelqu'un n'est pas régénéré dans l'homme intérieur, il n'est pas régénéré dans son esprit. Ce que la parole de Dieu apporte dans sa vie, c'est simplement les raisonnements. Il trouve des moyens d'expliquer un certain nombre de choses par rapport à la foi. Déjà qu'il ne va pas comprendre entièrement, parce qu'il dit que c'est spirituellement qu'on en juge.
Qu'on en juge,
et,
voilà.
Sur plusieurs points, il va se contenter à dire non, ceci n'est pas possible. Non, Jésus ne voulait pas vraiment dire ça. Il faut encore présenter le texte et le contexte de ceci ou de cela. Et les gens finissent par tordre les écritures pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, selon leur convenance à eux, hein, selon comment ça me plaît. Je peux donc mettre la parole de Dieu en pratique selon la satisfaction de ma chair. Si ma chair doit être sévrée quelque part, non, je ne la mets pas en pratique, ce n'est pas une parole pour moi.
Effectivement, et quand on voit un peu le son d'Abraham et les autres, on se rend compte que c'est des gens qui ne discutaient pas beaucoup avec Dieu. Parce que comment Noé pouvait-il construire un bateau par un temps où il ne pleuvait pas? 120 années de construction d'un bateau de l'arche pendant, il ne pleut pas, même pas une goutte de pluie, le ciel est clair. Non, dans notre génération, on allait discuter, on allait te démontrer que cela n'est pas possible, Dieu ne peut pas parler dans une circonstance de sécheresse, et c'est pas possible et tout. Donc, ça me rappelle une petite histoire qu'on avait racontée à l'église, et pendant que l'église en Russie, il y avait encore des problèmes de persécution des chrétiens. Alors un jour, un groupe d'enfants de Dieu qui se retrouve dans une église, dans les églises de maison là, ils ont prié pour qu'il pleuve le lendemain. Et le lendemain, ils sont arrivés au lieu de prière, personne n'avait de parapluie, sauf une petite fille qui avait pris son parapluie. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu la petite fille avec le parapluie, on lui dit, mais attends, pourquoi tu viens avec le parapluie? Est-ce que tu vois pas que le ciel est clair? Elle a dit, mais on a prié hier. Mmh. Et avant qu'il ne sorte de cette salle de prière, il a commencé à pleuvoir. Vous voyez, les enfants de Dieu sont entraînés dans le raisonnement aujourd'hui. La vie de Christ n'est pas leur vie. Et c'est pour ça qu'ils souffrent beaucoup. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas la direction de leur vie. Dieu est venu pour nous donner une direction dans la vie. Les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais c'est des gens qui vivent dans le malheur parce qu'ils ne peuvent même pas entrer dans le projet que Dieu leur a donné. Puisque souvent ce projet, c'est dans la souffrance, dans la douleur, dans les difficultés. Mais là, ça ne se comprend pas comme ça. Ça se raisonne, ça se discute. C'est tellement difficile. Et à la fin, Dieu m'a trahi, Dieu m'a trompé. On utilise des mots qu'on doit utiliser pour le diable contre Dieu. C'était vraiment terrible pour la souffrance que les enfants de Dieu ont aujourd'hui. Parce que la parole n'est pas serrée dans le cœur.
Puissions-nous véritablement donc serrer la parole de Dieu dans notre cœur, par dans notre tête, la laisser descendre dans notre cœur, et que nous puissions véritablement la comprendre pour la mettre en pratique. pour être des personnes, pour être les personnes heureuses. Dieu ne demandera pas de compte par rapport à ce que, par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Il demandera des comptes par rapport à tout ce que nous connaissons de lui et que nous n'avons pas mis en pratique. C'est par rapport à ça que nous serons jugés. Nous serons jugés en fonction de l'éclairage, comme dit la parole de Dieu, que nous avons reçu. Celui qui a reçu beaucoup, on lui en demandera davantage. Et comme les gens en reçoivent vraiment beaucoup, pasteur, comme ils reçoivent à la radio, ils reçoivent à la télé, ils reçoivent à l'église, donc,
ils reçoivent dans la lecture personnelle.
Mais on n'a pas beaucoup de vie changée, malheureusement.
Voilà. Allez, sinon, il n'y aurait pas trop de bruit, de désastre dans le milieu des enfants.
Trop de scandales en même temps.
Ah ben oui. Ben, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous aurons quelques annonces. Notre camp biblique des enfants qui va du 2 au 4 juillet. Si vous voulez envoyer votre enfant de 5 à 13 ans dans ce camp biblique, vous êtes bienvenu. Vous pouvez me contacter. Et la participation, c'est 4 000 francs seulement. Et le camp biblique des jeunes, qui va des jeunes de 15 à plus, quoi, qui va du 22 juillet, vous pouvez aussi envoyer votre enfant. C'est la participation de 15 000 francs. Ces camps se passeront ici à Douala pour votre bien et pour le bien de vos enfants. Ça me rappelle l'année dernière, on est allé voir une dame pour qu'elle vienne envoyer son enfant au camp. Elle dit non, c'est pas 15 000 francs. On partait à Limbé. Et puis quand on est revenu au camp, elle est revenue voir un de nos responsables du camp pour lui dire, oh mon enfant, il est totalement perdu. J'ai payé 800 000 francs d'école. Je n'arrive pas à le récupérer. Et le frère lui dit, ben, il t'a pas payé 15 000 francs pour que le Seigneur le récupère. Tu as payé 800 000 francs, va le chercher là où il est. Donc bien aimé, c'est le temps pour vous de pouvoir aider vos enfants à passer des congés avec le Seigneur en les envoyant au camp biblique. Nous rappelons aussi notre case de passage à Makepe, derrière le conteneur rouge, là où se trouve notre église, et les maisons de retraite à Pécadouze. Que Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi vous demander vos prières pour notre campagne d'évangélisation que nous aurons à Yaoundé à partir du 18 au 22 juin. Que Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur nous bénisse tout ce soir, madame, messieurs. Merci d'avoir été là. Le pasteur Emmanuel Koum, le pasteur Noengachou, pour vous accompagner dans cette édition de Rythme de Dieu. Retrouvons-nous mardi prochain, s'il plaît au Seigneur. Gardez vos yeux et vos cœurs dans la pureté. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et qu'il n'y ait plus d'écart entre ce que vous savez de Dieu et ce que vous vivez. A très bientôt sur la Confession 8FM.
Au rythme de Dieu, la communauté CBC Makepe Israël, sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum, vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.